Valérie Castellerbut, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la vice-présidente du Parti évangélique Genevois et la coprésidente du comité à l'initiative pour supprimer le financement de l'avortement.
Oui, deux fois coprésidente, donc au plan Genevois aussi, coprésidente du Parti évangélique Genevois.
Et nous allons parler aujourd'hui un petit peu du traitement réservé à cette initiative dans les médias et dans le débat en société en général. Parce qu'on vous a beaucoup entendu sur les raisons de l'initiative, je crois qu'on les a bien comprises. Mais nos auditeurs voudraient en savoir un petit peu plus sur le traitement un petit peu particulier réservé justement à votre comité et aux personnes qui prennent la défense de cette initiative. Alors, si vous le voulez, on va simplement discuter de la chose. On a été très étonné de voir, surtout à la RTS, ce besoin récurrent de la part des journalistes de vous faire sortir du bois concernant votre position par rapport à l'avortement, comme s'il était nécessaire que vous soyez ouvert, que vous soyez pratiquement pour l'avortement pour pouvoir être contre son financement. Est-ce que ça vous a marqué?
Écoutez, je vois que depuis le début, c'est comme si nos opposants cherchaient à nous ramener dans le débat de 2002, quand on a voté sur la dépénalisation de l'avortement. C'était la grande crainte qu'on réouvre cette page de l'histoire et qu'on reparte sur ce débat-là. Et on a toujours cherché à nous faire endosser, en fait, notre incohérence à vouloir reparler de ce sujet qui avait été plébiscité en 2002 par plus de 72% des votants en Suisse en nous disant « Vous n'avez aucune crédibilité » parce qu'à l'époque, on avait une large majorité des Suisses qui s'étaient prononcés pour la dépénalisation. Donc, taisez-vous. C'est vraiment l'impression qu'on avait.
C'est assez curieux parce que je veux dire, le jeu démocratique, c'est justement pouvoir revenir, sans faire de guerre, évidemment, revenir par la voie de la démocratie, du débat, du dialogue, de la discussion sur des sujets qui n'ont pas satisfait tout le monde.
Oui, et c'était justement notre propos de dire, on ne peut pas simplement, comme on peut le voir hein, en systémique, glisser l'éléphant sous le tapis et dire non, non, il n'y a aucun problème. Si on revient aujourd'hui à la charge avec cette problématique de l'avortement, c'est bien que ça pose problème, en tout cas aux 110 000 personnes qui ont signé l'initiative en disant, je ne peux pas, avec ma conscience, être en accord avec l'idée de financer les 11 000 avortements qui sont pratiqués chaque année dans ce pays. C'est totalement, c'est une solidarité morbide qu'on m'impose et je ne peux pas être d'accord avec ça. Donc j'ai besoin de pouvoir dire, sortons cet avortement du remboursement de la LAMAL. C'est une erreur dans la conception de la LAMAL d'imaginer qu'on paye pour des avortements qui ne sont ni des soins, ni comment je dirais, une prise en charge qui permette une amélioration de la santé ou en tout cas de sauvegarder la vie, comme d'ailleurs les médecins le promettent dans le serment d'Hippocrate. On est à l'envers du serment d'Hippocrate, on est à l'envers de la logique de la LAMAL, et donc il s'agit vraiment d'être cohérent avec ça et de dire l'avortement n'a rien à faire dans le catalogue des prestations de base de la LAMAL.
Et comment expliquez-vous finalement ce retour d'un tabou? On a l'impression que l'avortement est un gros mot, qu'il faut surtout pas en parler dans le fond. On a l'impression que pour eux la discussion est close une fois pour toutes, qu'on peut pas y revenir et que c'est un nouvel interdit.
Mais ça a été posé comme une espèce d'objectif à atteindre dans le clan des féministes qui posaient l'avortement comme une espèce de droit fondamental de la femme à décider librement de son propre corps. Et les hommes se sont tus, en fait. Ils se sont un peu cachés derrière ce mouvement féministe en disant, eh bien, laissons-les faire, parce que de toute manière, on n'ose pas monter aux barricades, on n'ose pas se positionner face à ce qui nous paraît être un juste retour des choses, dans la mesure où beaucoup d'hommes, en fait, ont envoyé les femmes se faire avorter sans être clairement là pour l'enfant ni pour la femme. Mais cette logique cette revendication, cette logique de revendication, mon corps m'appartient, l'étape suivante, c'est celle à laquelle on arrive aujourd'hui, où les femmes disent, je fais ce que je veux de mon corps, donc je peux louer mon ventre à qui veut, et on part directement dans la procréation assistée avec des femmes qui louent leur ventre et qui donnent ensuite l'enfant à qui veut. C'est juste l'étape d'après où on a de plus en plus de déresponsabilisation entre son corps et son être, comme si on pouvait dissocier la personne humaine entre le corps d'un côté, l'âme et l'esprit de l'autre, alors que nous faisons un tout et que nous savons tous qu'on ne peut pas couper l'être en morceaux en disant mon corps est une chose et moi je suis quelqu'un d'autre et je peux comme ça me morceler. Vers quoi est-ce qu'on va? Vers quelle génération est-ce qu'on va qui aurait des parents totalement morcelés dont on ne sait plus qui est le géniteur, qui est la génitrice, qui est la mère finalement, qui a porté, qui a voulu, qui a aimé l'enfant? Je ne sais pas vers quoi on va, mais c'est assez effarant en fait quand on voit dans quoi on est parti et à quoi on a ouvert la porte avec cette logique-là. Les féministes dans les courants plus germaniques sont plutôt dans des revendications d'égalité de salaire, d'égalité de traitement, de prise en compte de la parole des femmes dans tous les aspects sociaux. On n'est pas dans cette volonté extrême qu'on a dans cette logique, je dirais, française, franco-française, où on surfe un peu sur cette vague de Simone Weil qui revendique l'avortement comme un droit de la femme à disposer de son corps. On n'est pas dans cette même vision du monde-là et je crois qu'on a une espèce de rupture culturelle entre la Suisse allemande et la Suisse allemande qui surfe sur des courants de pensée totalement différents de part et d'autre.
Et votre impression par rapport justement aux questions directement adressées à vous par Estelle Mabachi ou Simon Matédoré à la radio, où vous avez vraiment fait le catalogue dans l'ordre, que faites-vous pour les jeunes filles mères qui ont l'intention d'avorter? Est-ce que vous êtes pour ou contre? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez été un petit peu défavorisé, qu'on vous a traité différemment de vos adversaires?
Écoutez, moi j'entendais les questions de la gauche, j'entendais en fait tout le discours du PS qui m'était renvoyé comme si en fait les journalistes ne savaient pas différencier leur capacité de médiation qui doivent avoir leur neutralité journalistique du discours du PS en face. Esther Mamarbachi reprenait à son compte en fait tout l'argumentaire qui avait été présenté par le Conseil fédéral. Et moi, je l'ai trouvée assez partisane. Je le lui ai dit. J'ai été un peu déstabilisée au départ d'avoir été interrompue plusieurs fois à chaque fois que j'essayais de développer mes arguments. Après, je me suis dit, bon, c'est son jeu, allons-y. Et donc, j'ai développé mes arguments, même si elle me coupait la parole deux, trois fois dans mes réponses, en disant, il faut que j'aille au bout de ce qu'elle veut entendre, parce que si elle me coupe la parole systématiquement, je ne peux rien expliquer, je peux rien développer. Et en fait, les auditeurs vont être frustrés parce qu'ils auront l'impression que cette émission est faite de briques et de brocs. Mais voilà, on sent très bien le positionnement, en fait, des journalistes. On sent ce qu'ils pensent. Et ça, je crois que c'est dommageable, en fait. Le journaliste devrait avoir une position de neutralité bien plus affirmée, bien plus marquée, et vraiment s'en tenir à une, pas une distribution de parole, mais une médiation entre deux positionnements qui sont clairement affirmés sur le plateau, et pouvoir redonner la parole de part et d'autre. Et on a très clairement senti la position de ces deux journalistes, en l'occurrence, mais l'auditeur n'est pas dupe de ça. Je veux dire, j'ai eu des réactions d'auditeurs et de téléspectateurs qui m'ont dit on sentait très clairement le positionnement du journaliste.
Mais est-ce qu'on n'est pas assez serein 10 ans après la votation sur la solution des délais pour considérer la question avec une certaine distance, pouvoir en parler froidement, comme un sujet politique comme un autre finalement?
Bah, visiblement pas. On est vraiment dans l'émotionnel. Je vois que certaines personnes écrivent ou parlent encore de ce sujet de manière extrêmement émotionnelle et nous interdisent de venir même sur ce sujet en disant vous n'avez pas le droit de remettre en cause la paix sociale en Suisse, comme si en fait en 2002 on avait trouvé la formule magique qui nous permettrait d'être en paix sociale en Suisse par rapport à ce sujet. La preuve, par les 110 000 personnes qui ont signé l'initiative, c'est bien que ces personnes ne se sentent pas en paix. On ne peut pas se sentir en paix en sachant qu'on paye allègrement pour 11 000 avortements pratiqués en Suisse. Alors que si on vote le 9 février prochain pour cette initiative, nous avons toutes les bonnes raisons de penser que nous arriverons à réduire le nombre d'avortements d'environ 10%, ce qui veut dire quand même 1 000 avortements en moins pratiqués chaque année en Suisse. Ça représente 40 classes d'école bien pleines. C'est pas anodin, c'est pas rien. Et donc tout ça me fait dire que on a une espèce de tabou comme ça sociétal sur la question qui vaut la peine d'être remis sur le devant de la scène. Et quand on a un tabou dans une société, ça vaut la peine de s'interroger, de savoir pourquoi on n'ose pas parler de ce sujet. Moi, j'ai l'impression que on est dans une vision un peu sociétale, hein, d'une société qui arriverait maintenant à l'âge adulte et qui en 2002, on était un peu à revendiquer comme les adolescents, je fais ce que je veux, tu peux pas m'interdire de décider pour moi-même. Alors en 2002, on était dans cette revendication adolescente où les parents, donc la société disait, OK, fais ce que tu veux, mais tôt ou tard, tu payeras les pots cassés de ça. Et aujourd'hui, c'est comme si 10 ans après, on arrivait à l'âge adulte et que cette société doit prendre les responsabilités de ses choix et de ses choix éclairés. Et donc, ceux qui aujourd'hui veulent dire, je veux pouvoir avorter et que personne ne m'interdise, on doit pouvoir lui répondre, mais oui, mais prends tes responsabilités. Et donc, une femme qui veut avorter doit pouvoir, au sein de son couple, dire la responsabilité de l'avortement, c'est de payer et de payer les pots cassés aussi, c'est-à-dire les conséquences de cet acte-là, à tous les aspects qui sont liés à ça. Et peut-être que là, il nous manque des informations par rapport aux conséquences de l'avortement, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, si la porte est grande ouverte à l'avortement et qu'on est entré dans une logique un peu d'automatisme, par contre, on n'a pas tellement l'information donnée aux femmes pour dire ça pèse lourd sur une conscience et c'est toute une vie entière où on se souvient du jour, de la date et de l'heure à laquelle on a pratiqué un avortement. Ça reste marqué d'une croix blanche dans une vie et c'est vraiment pas quelque chose à envier. Et ni non plus d'ailleurs au père pour dire mais ne, évitez que votre compagne se retrouve dans cette situation-là. Prenez vos responsabilités. Il y a d'autres options, il y a d'autres possibilités que l'avortement. Ça, c'est un message qu'on ne fait pas passer, ni dans les familles, ni dans les écoles, ni au niveau politique. Et je crois que là, on a encore un déficit de communication et d'information qui est assez conséquent. Les cours d'éducation sexuelle à l'heure actuelle, ce que j'ai entendu dire, c'est qu'on demande à des classes entières de jeunes de 12 à 14 ans de se déshabiller pour se regarder, ce qui est absolument choquant quand on pense à la pudeur qu'on peut ressentir à cet âge-là, au lieu de leur passer peut-être des témoignages de femmes qui ont avorté pour dire, écoutez, évitez à tout prix de vous en retrouver là, parce que c'est la pire des solutions, c'est pas une solution en fait. Et je crois que là, on doit se poser des questions sur la manière de dispenser des cours d'éducation sexuelle à l'école à l'heure actuelle.
Effectivement, on vous entend bien. Je veux dire, il y a une chose qui m'a quand même choqué dans ces débats, c'est qu'il y avait de fait une responsabilité de toute la société pour les avortements, et que cette responsabilité s'évaporait dès le moment où il s'agissait de s'engager, non peut-être pas directement contre l'avortement, mais pour la vie. Donc on est responsable des avortements, on doit payer pour eux, c'est le devoir selon eux de la société, mais dès le moment où l'enfant est né, ce devoir disparaît. C'est assez curieux.
Mais ça va même plus loin, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, un couple qui ne peut pas avoir d'enfant et puis qui passe par la fécondation in vitro ou les autres démarches pour arriver à pouvoir être parent, tous ces aspects-là ne sont absolument pas remboursés. Il n'y a pas du tout d'accompagnement non plus des parents. Donc on est d'accord d'être solidaire de manière morbide pour un avortement, mais on n'est pas d'accord d'être solidaire des parents qui luttent parfois pendant des années pour parvenir à avoir un enfant. Et ça, c'est extrêmement choquant. Voyons le déficit des naissances qu'on a en Suisse et voyons la logique de morbidité dans laquelle on s'est installé. C'est ça qui est heurtant et qui est choquant et on n'a même pas le droit de proposer l'adoption comme alternative à l'avortement. Parce qu'on passe pour rétrograde et on passe pour moyenâgeux, alors que pour moi, l'adoption est un acte d'une générosité des deux côtés d'ailleurs, hein, du côté des parents qui arrivent à donner l'enfant en adoption, aussi bien que du côté des parents qui veulent adopter. C'est grandiose, c'est une grandeur d'âme absolument extraordinaire et on le dira jamais assez. Et je pense que là, on a une vraie alternative à l'adoption, à l'avortement qui est pratiqué aujourd'hui, de laquelle on parle encore trop peu.
Alors, il faut dire aussi qu'à l'origine de cette initiative, il y avait eu la guerre, disons la coalition politico-médiatique avec un Joseph Ziziadis contre les contrats éthiques d'assurance complémentaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez.
Oui, ouais.
Donc, il y avait des rabais sur les complémentaires pour les familles qui s'engageaient à ne pas demander l'avortement ou le remboursement de l'avortement pour elles-mêmes.
Ben, c'était même dans l'assurance de base. C'était même dans l'assurance de base, mais le fait de le faire dans l'assurance de base, c'était en fait contraire à la LAMAL. Dans la mesure où l'avortement était pris en charge par l'assurance maladie, on ne pouvait pas, dans le cadre d'une assurance normale, prétendre pouvoir offrir des réductions de primes à des personnes qui seraient d'accord de s'engager par écrit sur leur sur leur parole à ne pas pratiquer l'avortement, parce que très concrètement, c'était illégal, hein. Et le problème est bien là. C'est pour ça qu'on a besoin de cette initiative pour pouvoir dire légalisons en fait le fait que l'avortement ne soit plus remboursé par l'assurance maladie. Auquel cas, effectivement, on est du coup dans l'ensemble des assurances maladies dans une logique de non-remboursement des avortements. Parce qu'à l'heure actuelle, on n'a pas de cadre légal qui nous permette d'avoir des assurances qui fassent des réductions de primes aux personnes qui s'engagent à ne pas avorter. On serait dans l'illégalité, en fait, à l'heure actuelle.
Mais on est comme dans un système qui contraint l'objection de conscience. À ce moment-là, tout le monde rentre dans le rang et doit payer pour une idée qui n'est pas la sienne, finalement.
Tout à fait, tout à fait. On n'a pas le choix. Et si on voulait ne pas payer pour les avortements, on se rendrait du coup, on se mettrait en difficulté par rapport à tous les autres aspects de santé. On ne peut pas faire d'objection de conscience sur un des aspects du catalogue des prestations de base de la LAMAL, parce que du même coup, on se priverait du droit au remboursement pour tous les autres aspects. Donc on ne peut pas le faire, par exemple, comme pour l'armée, des personnes qui objecteraient. On n'a aucune autre possibilité que de voter oui à l'initiative le 9 février prochain.
Effectivement, on entend ça, c'est un petit peu quand même curieux de voir tous ces partisans de la liberté vouloir en contraindre une chez des personnes qui ont manifestement quand même le droit de penser ce qu'elles veulent. Une dernière question par rapport justement à la question spécifique de l'avortement. On s'attendait à voir un certain nombre d'intervenants, disons, habituels de ce genre de questions. Les églises, certaines coalitions, certaines associations, notamment féminines, on s'attendait à les voir rejoindre vos rangs et curieusement, ça n'a pas été le cas. Alors, l'AFEPS, la Fédération des Églises protestantes de Suisse et la Conférence des évêques suisses, si je ne me trompe, ont laissé pour les catholiques la liberté de vote en manifestant quand même certains doutes et pour les protestants, se sont directement opposés. Est-ce que vous vous sentez trahi quelque part?
Écoutez, dans un premier temps, j'ai été extrêmement déçue par cette position en tant que chrétienne. Hein, je veux dire, ça m'a beaucoup attristée. Et puis, j'ai cherché à comprendre pourquoi ce positionnement des églises était tellement frileux et tellement peureux, alors qu'on a besoin de l'église pour nous sortir du marasme dans lequel on est à l'heure actuelle au niveau de la société. On a besoin de réponses claires, on a besoin de valeurs qui parlent de vie, qui parlent de confiance, qui parlent de foi, qui parlent d'espérance. On a besoin de ces réponses-là à l'heure actuelle dans une société qui ne sait plus qui est qui a des problèmes sur le genre humain, sur l'identité. Enfin, on est dans une période de marasme total. Et si l'Église ne donne pas des réponses claires, je ne sais pas qui les donnera. Après, je me suis souvenu aussi de périodes semblables dans l'histoire, notamment lors de la montée du fascisme en Allemagne, du nazisme dans l'Allemagne d'avant-guerre. On avait un Dietrich Bonhoeffer qui se positionnait clairement, qui a clairement dit l'Église doit sortir de son silence et ne peut pas participer d'un régime qui sépare et clive comme ça la société en ceux qui peuvent être sauvés et les autres, en une race qui serait pure et qui serait juste et les autres, c'est un non-sens total et qui s'est toujours tenu sur cette brèche-là et qui a totalement été désavoué par l'Église. Mais heureusement, on voit qu'aujourd'hui, au moment de la réunification des deux Allemagnes, c'est l'Église qui est sortie du bois, c'est l'Église qui s'est levée comme un seul homme pour faire le tour d'un bâtiment à Leipzig avec des chrétiens qui marchaient autour de cette église et des bougies allumées en disant c'en est assez, on peut pas couper un pays en deux et ce mur doit tomber. Et aujourd'hui, nous chrétiens en Allemagne, nous nous levons pour dénoncer ça. Donc c'est peut-être les personnes chrétiennes qui doivent se lever, c'est peut-être l'individu qui doit faire entendre raison à l'institution. Peut-être que l'institution n'a pas la réponse, mais j'espère bien que les personnes qui se reconnaissent dans un rattachement chrétien et dans des valeurs fondamentales chrétiennes pour la vie dans ce pays sauront se lever vraiment et faire entendre une voix différente de ce qu'on peut entendre de la part des institutions qui, elles, se cachent en fait derrière un discours lisse et peut-être un peu trop frileux et trop peureux pour cette période sombre dans laquelle nous vivons, où nous avons besoin d'avoir des éclairages francs et clairs, des personnes qui indiquent vraiment un chemin dans lequel on peut s'avancer en toute sécurité, en sachant que là, nous allons dans une direction qui permet d'ouvrir des portes et de tracer un chemin dans lequel nous avons une sortie possible.
Le 9 février semble réserver peu de surprises quant au résultat. Quelle sera la suite?
J'espère qu'on aura une majorité qui se dessine le 9 février prochain. Je ne suis pas sûre qu'on puisse déjà maintenant faire l'impasse sur ce qui va être voté. Je compte sur les personnes pour se lever et puis faire entendre un son clair. Je serais évidemment très intéressée de voir les résultats. Je ne sais pas si on aura cette double majorité des voix et des cantons. Mais dans tous les cas, le fait d'avoir ramené ce sujet au premier plan pour dire la question n'est pas réglée. On ne peut pas simplement enterrer la problématique de l'avortement en disant que c'est un débat qui appartient au passé. Voilà, je crois que là, ça vaut la peine toujours de ramener le sujet sur le devant de la scène. J'ai parlé dernièrement à trois étudiants de l'Université de Lausanne qui avaient ce sujet comme séminaire de sciences politiques. Et pendant les 2 heures où nous avons parlé, j'ai réalisé qu'ils révisaient leur jugement un peu trop hâtif, où ils m'avaient catalogué dans une personne dogmatique, rattachée au passé, avec une vision moyenâgeuse, en se rendant compte que les positionnements dogmatiques et fermés n'étaient pas forcément là où ils croyaient. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, le discours de la gauche était dogmatique, puisqu'on ne pouvait même pas, au sein du PS, aborder la question de l'avortement sans se faire hurler contre. Ils se sont rendus compte que là où le débat était possible, là où on osait encore confronter les idées et les positions, c'était plutôt là qu'il y avait une liberté de parole, c'était plutôt là qu'on pouvait imaginer des solutions et des possibles. Donc peut-être qu'il faudra remettre le sujet sur le devant de la scène dans 5 ans, parce qu'une génération à l'heure actuelle, au bout de 5 ans, a oublié ce que la génération précédente avait amené en avant. On est un petit peu à la même vitesse que les ordinateurs. On a une obsolescence dans la société qui est extrêmement rapide, mais je crois qu'il faut continuer à parler, il faut continuer à proclamer haut et fort, il faut continuer à dire que cette solution des délais n'est pas une solution, et il faut continuer à dire que l'avortement ne peut pas être une solution, et qu'un être humain est conçu pour pouvoir vivre et non pas être condamné à mourir. Et se rappeler ce que la Cour européenne de justice a décidé en octobre 2011, à savoir que le moment du début de la vie était celui de la multiplication cellulaire pour pouvoir déterminer qu'est-ce qui était une cellule souche et qu'est-ce qui était un être humain. Il faut continuer à rappeler ces choses-là, il faut continuer à le dire aux générations qui viennent pour qu'on sorte de cet automatisme de l'avortement et de cette facilité dans laquelle on est tombé maintenant. Parce que je ne crois pas qu'une société puisse être saine et viable si on condamne à mort ces éléments les plus faibles, génération après génération. Il en va de la survie, en fait, de l'espèce humaine, et il en va de la survie de nos valeurs de vie.
L'Espagne prévoit de réformer sa loi. En France, il y a eu 45 000 personnes à Paris pour marcher pour la vie ce week-end. Aux États-Unis, ça bouge beaucoup aussi. Vous êtes confiante pour l'avenir?
J'espère qu'on est en train de voir un mouvement de roue qui tourne dans l'autre sens pour dire une société plus responsable, une société qui prenne en compte ses enfants et ses éléments les plus faibles, une société qui soit capable de prendre les responsabilités de ses actes et qui arrive enfin à l'âge adulte. J'espère qu'on arrive à ce temps-là, mais je ne suis pas devine, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Je peux qu'espérer, parce que l'espérance nous permet de garder espoir et de garder le sourire quand les temps sont difficiles. Mais je vous dirais que par moments j'ai envie de pleurer et de baisser les bras. Et je me dis non, il y a encore du travail sur la planche. Il faut aller de l'avant et il faut se battre pour la génération qui suit et continuer à parler haut et fort jusqu'à ce que d'autres se lèvent aussi. Et tant qu'il y a des personnes qui sont encouragées par ma prise de position et qui se disent, moi aussi j'ai envie de me lever, alors je continuerai.
Valérie Castellerbude, coprésidente du comité d'initiative contre le financement et le remboursement de l'avortement, nous vous remercions d'avoir répondu aux questions des observateurs.
Merci de votre invitation.